Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, Nicolas Sarkozy qui sort du silence. Il l'annonce, il votera Emmanuel Macron au second tour. Le président candidat, lui, est en déplacement à Mulhouse, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé largement en tête dimanche. Pour Marine Le Pen, pas de terrain aujourd'hui, mais une conférence de presse autour de la réforme de nos institutions.
La réforme des retraites, Emmanuel Macron l'a dit hier, les 65 ans ne sont plus un dogme, manœuvre, reculade ou tout simplement bon sens. On en débat dès 12h40 et à 12h50, c'est Franck Louvrier, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et aujourd'hui maire de la Baule, qui sera présent dans notre studio pour commenter la décision de Nicolas Sarkozy.
Notre question du jour sur RTL.fr, le sujet de l'âge de départ à la retraite peut-il influencer votre vote? Vous dites oui à 37%, non à 59%. La météo, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Bon, avant le très beau week-end en perspective, la pluie qui revient par l'ouest.
Et oui, ça concerne les régions entre la Normandie et l'Aquitaine, avec des averses localement orageuses dans le sud-ouest. Quelques pluies également sur le Roussillon et partout ailleurs. Un temps sec sous un ciel plus ou moins voilé. Puis il y a deux départements toujours en vigilance orange. Vent violent, la Haute-Garonne et le Tarn. Les températures, elles sont encore très douces, de 16 à 20 degrés dans l'ouest et jusqu'à 24 dans l'est.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Valérie Pécresse avait espéré son soutien pendant des semaines. En vain, Nicolas Sarkozy aura finalement attendu l'entre-deux-tours pour sortir de son silence. Dans un texte publié ce matin sur Facebook, il l'annonce, il votera donc Emmanuel Macron le 24 avril prochain. Avant de décrypter son message, les premières réactions, celles des électeurs de droite. Julie Brault, vous êtes à Versailles pour RTL.
Oui, ici ce ralliement de dernière minute ne plaît pas aux fidèles des Républicains. À l'annonce de la nouvelle, Chantal redresse son chariot de course brutalement.
Pour moi, c'est une trahison qu'il n'ait pas annoncé son soutien à Valérie Pécresse. Parce que c'est sa famille, il est LR. J'ai trouvé Valérie Pécresse très bien. J'ai voté pour elle des deux mains. Cuit ou pas cuit, je trouvais qu'il fallait la soutenir.
Alors sur la place du marché, on estime que Nicolas Sarkozy a manqué de courage. C'est une tromperie, assure Dominique, mais une tromperie essentielle.
Qu'ils réagissent pour Macron, c'est pas plus mal, parce que si on se bat pas contre le Front National, on est foutu. On va éviter cette fois-là encore, parce que Le Pen, c'est un vrai danger. On vote de façon sensée.
Et pour une fois ici, contre toute attente, la droite et la gauche semblent s'aligner. Alex est mélenchoniste, mais le soutien de Nicolas Sarkozy ne l'éloigne pas de son objectif.
La peste ou le choléra, la peste, ça soigne, le choléra moins. Le problème, c'est que le vote blanc est passé à la majorité. Si le vote blanc était reconnu, on y serait tous allés massivement voter blanc. Mais là, c'est pas le cas. Donc du coup, c'est un peu jeter sa voix à la poubelle. On va voter Macron quand même. On va se mettre centre-droit pour éviter d'être complètement à droite. C'est interdit de doubler par la droite en France.
Alors malgré un goût amer de déjà-vu, le barman déglutit, il s'engage à convaincre les Versaillais de gauche et même de droite à voter Emmanuel Macron dans 15 jours.
Parole d'électeur à Versailles avec Julie Brault. Bonjour Thomas Després.
Bonjour.
Ce message de Nicolas Sarkozy, il est publié dans un contexte bien particulier. Après, bien sûr, l'échec de Valérie Pécresse. Et alors que les LR sont partis, ont exprimé hier un autre choix. Eux n'appellent pas à voter Emmanuel Macron, mais à ne pas voter Marine Le Pen.
Oui, c'est là toute la différence entre ces deux positions. Vous l'avez dit, il y a d'un côté les Républicains qui, après de longues discussions, hier sont parvenus à cette formulation alambiquée. Aucune voix ne doit aller à Marine Le Pen, mais nous ne sommes fongibles ni dans le macronisme, ni dans le lepenisme. Une sorte de nini que ne reprend donc pas Nicolas Sarkozy. Je voterai pour Emmanuel Macron, écrit-il clairement ce matin, parce que je crois qu'il a l'expérience nécessaire face à une grave crise internationale, dit-il. Mais l'essentiel de ce petit message n'est pas que l'ancien chef de l'État appelle à voter pour Emmanuel Macron. Ça, tout le monde s'en doutait. En revanche, ce qui est majeur, c'est qu'il invite à répondre à l'appel au rassemblement d'Emmanuel Macron, en clair, qu'il appelle ses proches, ses soutiens, les élus sarkozystes, à rejoindre le président candidat en vue d'un second quinquennat. Une nouvelle époque s'annonce, dit-il. Il faudra sortir des habitudes et des réflexes partisans. Il est, en l'état actuel des choses, le seul en situation d'agir. Une petite formule qui, de fait, acte la mort de son ancien parti, les Républicains.
Thomas Després du service politique de RTL.
Autre ex à prendre la parole ce matin, Lionel Jospin.
Dans un communiqué, l'ancien Premier ministre indique, je cite, qu'il écartera Marine Le Pen et votera Emmanuel Macron au second tour. Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui dans le Grand Est après le Nord hier, première étape à Mulhouse, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête dimanche avec un peu plus de 36% des voix. Vincent Derosier, vous êtes sur place pour RTL.
Absolument.
Emmanuel Macron poursuit sa campagne avec une chasse aux voix de gauche. Mulhouse, vous venez de le dire, plus 36% des voix pour Jean-Luc Mélenchon. Strasbourg ce soir, plus 35% des voix pour l'insoumis. Le programme aussi a été conçu sur mesure. Rencontre avec des soignants en ce moment, secteur dans lequel Jean-Luc Mélenchon promettait des investissements et des recrutements massifs. Emmanuel Macron veut prouver que lui aussi peut sauver le système de santé et tirer les conséquences de la crise du Covid. Eh bien, à peine arrivé, le voilà dans le bain. Écoutez, il est en train de discuter avec un syndicaliste spécialiste en réanimation très remonté.
Monsieur, j'ai 30 ans d'établissement. J'ai 1776,58 €. Vous voulez voir ma fiche de paye ?
Mais, non, mais je vous crois.
J'ai 30 ans d'établissement, monsieur Macron. Comment vous expliquez ça ?
Voilà, et puis ce soir, le président candidat parlera d'Europe après la santé, de protection des citoyens, mais aussi d'indépendance de la France pour que tous les électeurs de gauche, encore KO aujourd'hui, finissent par glisser un bulletin Emmanuel Macron le dimanche 24 avril.
Vincent Derosier en direct de Mulhouse pour RTL.
Emmanuel Macron qui s'est dit prêt à bouger sur la réforme des retraites.
Les 65 ans ne sont pas un dogme, a-t-il dit. Jean Castex s'en est expliqué ce matin sur RTL.
Il est nécessaire de rassembler, il est nécessaire d'apaiser. On ne peut pas dire, pardonnez-moi, le président de la République n'écoute rien. Et quand il dit, ben voilà, j'écoute, je vais mettre en concertation tel et tel paramètre, il rétropédale. Il faut savoir ce qu'on veut.
Non, bon, mais on
oui
sent
à la
bien
réforme, mais oui est... dans un cadre concerté. Le but, c'est d'arriver à bon port. Le but, c'est le résultat. L'objectif que nous avons, c'est d'avoir un système de retraite sauvegardé et un système de retraite plus juste.
Jean Castex sur RTL ce matin, il était l'invité d'Alba Ventura.
Alors 64 ou 65 ans, est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Une réforme des retraites est-elle d'ailleurs vraiment nécessaire ? On en débat à 12h40.
Ce matin, Marine Le Pen dénonce une manœuvre pour tenter, je cite, de récupérer les électeurs de gauche. Elle a choisi la question des institutions, Marie Mollet.
Oui, Marine Le Pen va encore faire des appels de phare aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure en rappelant qu'ils ont des points communs sur le volet des institutions. Le référendum d'initiative citoyenne, la proportionnelle pour les élections législatives. Mais le but de la candidate, c'est surtout de tenter, de rassurer, montrer qu'avec elle, la démocratie ne va pas s'effondrer, dixit un cadre. La candidate populiste qui veut même en faire un argument anti-Macron. Il a été très borderline sur la démocratie. Lâche un élu, voyez le conseil de défense pendant le Covid. Car un chiffre a retenu l'attention du camp Le Pen. 70% des Français trouvent Emmanuel Macron autoritaire selon une étude de l'IFOP. Du pain béni pour nous, jure un élu. On va montrer que le danger pour la démocratie, c'est lui. Marine Le Pen qui tente donc de battre en brèche le procès en autoritarisme en le retournant contre son adversaire.
Explication signée Marie Mollet. Dans l'actualité également, la guerre en Ukraine et l'offensive sur le Donbass à l'Est semblent se préciser de jour en jour. Bonjour Julien Fautra.
Bonjour.
Vous avez pu le constater sur les images satellites.
Oui, des images satellites qui nous montrent des blindés, des transports de troupes, des convois sur des kilomètres en direction du Donbass et de villes un peu plus au nord, Izioum, Kharkiv. On distingue très nettement des moyens lourds, du matériel de guerre en masse, là où la Russie imagine être supérieure à l'armée ukrainienne. Véhicules de combat d'infanterie, des chars vers ce champ de bataille gigantesque qu'est le Donbass. Chaque maison, chaque ferme sera détruite, la terre brûlée. Voilà ce qu'un expert militaire confie ce matin. La terre brûlée de la part des Russes, c'est la guerre totale de Vladimir Poutine avec ses chars par centaines. La terre brûlée de la part des Ukrainiens aussi, qui utiliseront tous les moyens possibles lors de combats très différents de la guérilla menée jusque-là. Très différents aussi, parce que les experts militaires annoncent beaucoup plus de sang versé.
Julien Fautra du service étranger de RTL. À Besançon, le verdict attendu aujourd'hui au procès de Nicolas Zepeda. Hier, l'avocat général a requis la perpétuité contre ce Chilien qui est accusé, on le rappelle, d'avoir tué son ex-petite amie, la jeune Narumi. Dimitri Ramelot, jusqu'au bout, l'accusé aura nié les faits.
Oui, après 10 jours de procès devant une salle d'audience comble, le Chilien de 31 ans a martelé une nouvelle fois « Je ne suis pas l'assassin de Narumi, je ne suis pas qui je voudrais, mais je ne suis pas un assassin ». Et comme pour être sûr de bien se faire comprendre, l'accusé s'est exprimé pour la première fois en français et a ajouté « Je n'ai jamais voulu être au milieu de la douleur de la famille de Narumi, j'ai jamais voulu être au milieu de la douleur de ma propre famille, de ma propre douleur ». Une stratégie de défense qu'il a maintenue depuis le début du procès, malgré plusieurs témoignages compromettants. La Cour s'est ensuite retirée et délibère maintenant depuis un petit peu plus de 3 heures. Hier, l'avocat général avait réclamé la réclusion criminelle à perpétuité contre l'ex-petite amie de la japonaise de 21 ans. Narumi Kurosaki n'a plus été revue depuis le 5 décembre 2016, alors qu'elle venait de passer la nuit avec Nicolas Zepeda dans sa chambre d'étudiante. Son corps n'a jamais été retrouvé.
Il y a des choses qui sont...
Dimitri Ramelot, au palais de justice de Besançon pour RTL.
Et puis Louis Baudin nous avait prévenu dès hier matin, revoilà le sable venu du Sahara.
Et attention si vous avez une voiture, Pascal, ça va vous intéresser. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Bonjour Christophe Bourreau.
Bonjour.
Premier conseil, être patient.
Oui, inutile de vous précipiter, attendez que l'épisode soit passé. Pour éviter d'avoir à nettoyer plusieurs fois votre voiture, ça semble logique. Ouais. D'autant que ce sable n'est pas chargé en sel, c'est ce que m'a confirmé Louis Baudin. Il n'y a donc pas de risque de corrosion pour la carrosserie. Néanmoins, pour éviter que le sable s'infiltre partout, il faudra bien l'enlever. Et là, l'erreur numéro 1, eh bien, en fait, c'est de laver au chiffon la carrosserie ou les vitres ou passer une éponge. En effet, le sable est hyper abrasif. Cela risque donc de faire comme du papier de verre sur la peinture. Et là, bonjour les dégâts. Même résultat si vous utilisez des lingettes. Il faut donc privilégier l'eau, au minimum le jet d'eau. Le mieux, le nettoyeur haute pression type Karcher. Et surtout, j'attire votre attention et celle des auditeurs, vous évitez les rouleaux. Certes, c'est pratique, rapide et sympa pour les enfants. Non, parce qu'en fait, s'ils ne sont pas équipés de microfibres, là, vous risquez de rayer votre carrosserie. Donc, dans le
et
cas du sable...
comment on sait si un rouleau est équipé de
microfibres?
Certaines versions le font, mais dans doute, vous évitez.
Vous avez des microfibres dans vos rouleaux.
Vous posez la question, mais le mieux, c'est quand même le nettoyeur de pression. Ils sont au courant. Enfin, il faut savoir quand même que le code de la route, l'article R316-4, nous oblige à circuler, figurez-vous, avec une voiture propre.
Ah bon ?
En effet, ouais, il faut avoir le pare-brise qui ne soit pas trop sale, que la visibilité soit. Oui, c'est du bon sens. Sinon, c'est quand même une prune de 68 euros.
Ah oui, ça fait cher.
Bon, bah écoutez, merci pour ces informations. La réforme des retraites dans une seconde. Emmanuel Macron a dit revenir sur les 65 ans, pourquoi pas, à tout de suite.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
La retraite 65 ans, non.
Alors,
non. Ceux qui sont dans les bureaux, oui, mais pas ceux qui travaillent, les maçons, la plomberie, tout ce que vous voulez, travail dur, non.
Eh bien, déjà, on n'est pas si loin.
Aujourd'hui, notre système n'est pas financé. Donc, il n'y a qu'un seul moyen de faire, c'est de dire on va tous travailler un peu plus longtemps, en étant intelligent. Moi, je ne suis pas dogmatique. Je pars du réel pour aller à l'idéal, comme disait Jean Jaurès.
C'était hier à Denain dans le Nord, Emmanuel Macron prêt à bouger sur sa réforme des retraites. Les 65 ans ne sont pas un dogme, a-t-il répété à plusieurs reprises. Alors est-ce une reculade, une manœuvre? Faut-il d'ailleurs vraiment une réforme des retraites? C'est le premier débat de RTL Midi avec nous Benjamin Sportouche, chef du service politique, et Martial You, chef du service économie. Les chefs sont en force. Bonjour à tous les deux. Vous dites quoi d'abord? Il renonce, il recule Emmanuel Macron en bougeant cette histoire des 65 ans?
Il l'amende clairement, hein. C'était 65 ans, c'est plus forcément 65 ans. En tous les cas, il change les étapes. Donc oui, bien sûr, ce marqueur de sa campagne qu'il exposait il y a à peine un mois a évolué. Et maintenant, pour gagner, pour rassembler, pour essayer d'aller chercher un autre électorat, eh bien, il se dit qu'on n'ira pas forcément jusqu'à 65 ans et que ce totem-là, eh bien, il est tombé.
Alors moi,
je ne suis pas d'accord.
Je trouve que c'est du Macron dans le texte. Politiquement, c'est habile, effectivement. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai regardé le calendrier. 65 ans, c'était en 2032. Mmh. Dans la réforme de départ, on va dire, 64 ans, c'était en 2028. Donc quand on dit on se revoit en 2027 pour en discuter, on n'a rien touché, en fait, au calendrier qui est prévu initialement. Et quand on dit référendum, pourquoi pas? Ça ne veut déjà pas dire forcément oui, mais surtout, j'ai le sentiment que c'est surtout pour éviter d'avoir un référendum pour ou contre les 65 ans, donc pour ou contre Emmanuel Macron, le 24 avril prochain.
On est d'accord que cette mesure, cette retraite à 65 ans, c'était ce qui avait fait bondir une partie de la gauche, notamment avant le premier tour.
Ça a été un épouvantail terrible hein, pour toute une partie de la gauche. D'ailleurs, on a vu à ce moment-là les sondages qui baissait juste après la présentation de ce programme, qui n'était pas un programme en même temps, malgré tout ce que veut en dire Emmanuel Macron, ou en tous les cas ce qu'on a retenu, ce qui a percolé dans l'opinion publique, c'est surtout les 65 ans. Ça a été le marqueur, ça et le RSA, même s'il y a eu d'autres choses qui ont été avancées, notamment le fait qu'on puisse distribuer des allocations, que tout le monde n'ait pas besoin de s'inscrire pour avoir ces allocations. Donc tout ça, ça a été entendu sous le prisme d'une mesure antisociale.
Quand Emmanuel Macron dit « la retraite n'est pas financée », c'est vrai ou pas?
Non, disons que ça se discute, je suis désolé. Jean Castex le dit aussi ce matin chez nous. Moi, j'ai lu le dernier rapport du COR, du Conseil d'orientation des retraites. Le président de cette institution indépendante, Pierre-Louis Bras, dit Ce n'est pas dans les données budgétaires que vous lisez la nécessité d'une réforme.
Donc il n'y a pas besoin de
c'est
réforme.
C'est politique. C'est-à-dire mais que lorsque le poids des retraites, aujourd'hui c'est 14,7% en 2020, mais parce qu'il y a eu la crise quand même, qui a fortement pesé sur les comptes publics, mais en 2070, ça ne pèse plus que 11,3% du PIB, les retraites. Elles sont financées. Il n'y a pas
en
d'urgence.
En 2070,
ben oui, parce que les retraites, vous êtes obligé de vous projeter un petit peu quand même.
Quand il dit que c'est pour alors augmenter le montant 50 des pensions, alors, ça,
là, c'est différent. Là, c'est différent. C'est là où, quand je dis, c'est du Macron dans le texte. Mmh. C'est-à-dire qu'il vous explique, soit on augmente les cotisations de ceux qui travaillent, soit on baisse les pensions de retraite de ceux qui y sont déjà, soit on allonge la durée de, enfin, l'âge légal de départ. Donc évidemment, vous dites, bah, finalement, il n'y a qu'une seule solution qui tienne. C'est celle de partir plus tard. Mais simplement, il y a un argument, et je ne comprends pas que le gouvernement ne le mette pas plus en avant, qui est de dire, précisément, si on fait cette mesure à 65 ans, on dégage 18 milliards d'excédents qui peuvent financer le minimum de retraite à 1100 euros, mais surtout qui peuvent enfin financer cette épée de Damoclès qui pèse sur tous les retraités aujourd'hui, qui est le quatrième âge, qui
la
est
dépendance.
La dépendance, cette fameuse cinquième branche de la Sécu qu'on nous promet depuis plusieurs quinquennats et qui n'est toujours pas financée, toujours repoussée.
Bon, on peut avoir une lecture du corps différente. Quand je le lis précisément, à long terme, le solde du système de retraite varierait entre plus 2,1% et moins 0,7% du PIB. Eh bien, il y a le moins 0,7, ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'équilibre. Et quand même, ce qui est écrit noir sur blanc, d'ici à 2040, cependant, il n'existe quasiment pas de scénario de retour à l'équilibre des retraites d'ici 2040. Bon. Donc, si on regarde d'ici 2040, c'est qu'il faut faire quelque chose. Donc, ça donne
Martial,
lieu à différentes interprétations.
Martial, beaucoup de gens interprètent de rallonger le point de retraite, quoi, l'âge de la retraite, comme une baisse des pensions. Moi, j'entends cela. C'est une manière de baisser nos pensions. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà du mal à travailler après 55 ans. Donc, tu irais jusqu'à 65 ans sans toujours travailler et ta pension, après, baisserait.
Vrai ? Sauf que là, l'argument, il est inverse.
Non, un faux ou un tox ?
Non, c'est simplement que lorsque vous êtes dans les 5 dernières années de votre carrière professionnelle, et c'est d'autant plus vrai à chaque fois qu'on repousse, évidemment, on va dire entre 61 et 65 ans, vous n'avez que 30% des seniors qui sont en activité professionnelle à proprement parler. Donc vous avez déjà, vous êtes déjà soit au chômage, soit en pré-retraite, en activant vos congés épargne-temps. Enfin bref, vous n'êtes plus véritablement productif. Donc évidemment, ça veut dire que vous n'avez plus
important.
L'intégralité. Vous avez intérêt à continuer votre carrière pour pouvoir effectivement avoir l'ensemble de vos trimestres, même si c'est un peu factice.
Marine Le Pen, elle, a aussi évolué sur la question, puisqu'il y a encore quelques mois, elle parlait de la retraite à 60 ans. Maintenant, c'est 62 ans, sauf pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Là, c'est...
Oui, alors bon, ça, je suis désolé, j'ai l'impression de remettre tout le monde dos à dos, mais enfin, ça s'appelle le dispositif carrière longue. Hein. Avant 20 ans, vous commencez à travailler, ça existe déjà, ça date d'un certain temps, vous partez à 60 ans. Bon, voilà, donc elle n'invente rien sur ce chapitre-là. 62 ans, bon, bah là, vous êtes dans ceux qui ont commencé à travailler avant 24 ans. Donc là, vous avez effectivement une fenêtre de tir qui n'existe pas, à proprement parler aujourd'hui. Aujourd'hui, le premier job, c'est vers 23 ans, statistiquement. Et puis après, ça ne change pas. C'est-à-dire qu'on ne touche pas, en gros, au système existant avec Marine Le Pen, mais on donne quand même ce sentiment qu'on est un tout petit peu plus social, évidemment, et un tout petit peu plus à l'écoute de la souffrance au travail.
Benjamin.
C'est là où on voit que c'est le sujet majeur de cette campagne. Et Marine Le Pen, elle a dû, vous l'avez dit très justement, Amandine, bouger. Et le président de la République, lui aussi, il doit bouger. Est-ce que c'est trop tardif ? Ça, c'est une interrogation. On va le voir dans les sondages, là. Parce que ça peut être pris par une partie de la droite comme un abandon, c'est-à-dire un renoncement.
Ceux qui ont voté, notamment, pour Emmanuel Macron dès le premier tour.
Ceux qui s'apprêteraient à voter.
Je ne suis pas sûr que ce soit le sujet numéro un de la campagne.
Et deuxième.
Ah bah, enfin, je pense que le pouvoir d'achat est plus important.
Oui, mais ça, en fait,
mais ça fait partie des retraites.
Mais quand on regarde,
la retraite, tous les gens se projettent. Et vous voyez bien dans les interpellations du président de la République, et il pourrait perdre sur le tableau aussi,
c'est
de
fini.
Toute façon, de la gauche et des mélenchonistes. Pour qui 64 ans, ça vaut 65.
C'est fini, vous parlerez avec les auditeurs, puisque vous vouliez absolument parler. Et Ludovic Van de Kerckhoff, qui est à la rédaction en chef, me dit d'accélérer le mouvement, parce que nous recevons... le maire, à l'instant, de la plus belle ville du monde, le maire de La Baule, Franck L'Ouvrier, qui va être là. Et accessoirement, il vient nous parler de Nicolas Sarkozy. Mais il nous dira surtout s'il fera beau à La Baule ce week-end. 12h51, à tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. RTL Midi
avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Pour moi, c'est une trahison qu'il n'ait pas annoncé son soutien à Valérie Pécresse. Parce que c'est sa famille, il est LR. J'ai trouvé Valérie Pécresse très bien. J'ai voté pour elle des deux mains. Cuit ou pas cuit, je trouvais qu'il fallait la soutenir.
Il fallait à ce moment-là qu'il se manifeste pour aider son propre parti. Son propre parti, ce sont les Républicains. Et là, il va à l'encontre.
Ambiance amère ce matin auprès de certains électeurs de Valérie Pécresse, se croiser à Versailles en tout cas, vous l'avez entendu, se disent surpris, parfois même en colère, hein, après ce message posté ce matin par Nicolas Sarkozy. L'ancien président, on l'a dit, annonce qu'il votera pour Emmanuel Macron. Alors pourquoi maintenant? Quel avenir pour les Républicains? C'est notre deuxième débat. Bonjour Franck Louvrier.
Bonjour.
Maire de La Baule, l'ancien conseiller Nicolas Sarkozy est toujours très proche de l'ancien président. Thomas Després du service politique de RTL est à nouveau avec nous. Franck Louvrier, d'abord, vous comprenez ces électeurs LR pardon, qui parlent de trahison dans l'attitude de Nicolas Sarkozy?
Il n'y a pas de trahison pour la simple fait, c'est qu'il se prononce maintenant, qu'il ne s'est pas prononcé avant.
Et le petit coup de pouce avant, il aurait peut-être servi, non?
Mais il ne souhaitait pas rentrer dans la politique, je dirais, du quotidien depuis plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années. Il avait fait ce choix-là. Donc respectons ce choix. À partir du moment où les compteurs sont à zéro depuis dimanche soir et qu'il y a deux options possibles. Et honnêtement, les deux options sont à peu près à égalité aujourd'hui. Je pense même que Marine Le Pen n'est pas loin de l'Élysée. Il est important que l'ancien président de la République, vu ses combats précédents, notamment contre, à l'époque, le Front National et aujourd'hui le Rassemblement National, il est important qu'il prenne cette position, qui est à la fois une position, bien évidemment, contre Marine Le Pen, mais aussi une position en disant « attention, tirons les leçons ». De cet éparpillement, de cette atomisation.
Mais justement, quand il appelle au rassemblement, et quoi, ça veut dire quoi? C'est la fin des Républicains?
Non, c'est pas la fin des idées de droite. Mais vous savez, les coquilles dans lesquelles nous sommes, les partis politiques, ils ont changé de marque et de positionnement souvent. Mais en tout cas, il y a toujours eu des idées de droite. Moi, je défendrai toujours des idées de droite. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, il faut être opérationnel et pragmatique. Mmh. Et c'est sûr que quand on voit ce qui se passe et quand on voit les projets qu'il y a à mettre en place, il faut peut-être aujourd'hui mettre en place justement ce type de majorité de coalition qu'on connaît dans d'autres démocraties.
À l'Allemande, par exemple,
dans les pays du Nord, etc. Mais prenons en compte qu'en fin de compte, l'électeur, il est devenu zappeur. Il est consommateur. Vous savez, mon grand-père, il disait « je suis Peugeot à vie ». Il achetait des Peugeot toute sa vie. Bon.
Et on votait, et on était gaullistes, RPR, voilà,
etc. C'est fini, ils sont consuméristes. Donc il faut s'adapter à ça pour justement faire avancer les projets. Parce que ce qui compte, c'est pas le parti, c'est le pays. Et le pays, c'est quoi? C'est de faire les réformes indispensables pour justement être dans les premiers pays au monde pour pouvoir évoluer et avancer. Voilà,
Franck Louvrier, c'est ça l'objectif. On avait annoncé que les Républicains exploseraient. Je vous lis Bruno Retailleau, ce qu'il a tweeté il y a quelques minutes. Il est président du groupe des Républicains au Sénat, c'est pas n'importe qui. La position de Nicolas Sarkozy est une position personnelle, ce n'est pas celle de notre famille politique. Nous ne nous reconstruisons pas la droite en nous diluant dans le macronisme. Nous rebâtirons sur la fidélité à nos convictions. Il dit pas la même chose que vous. Je dis pas qu'il dit le contraire, mais il dit pas la même chose que
moi. Je vais même vous dire aller plus loin, c'est que le communiqué d'hier du bureau politique des Républicains m'a semblé déconnecté avec la réalité des résultats de dimanche soir. Quand on met sur le même pied d'égalité Marine Le Pen et Emmanuel Macron, c'est une erreur.
Sauf qu'il
c'est
a été voté, ce communiqué, par une voté, majorité, oui. Non,
mais votre famille, mais votre famille explose.
Mais c'est pas que notre famille explose.
Bah elle se coupe en deux.
C'est pas le sujet. C'est que, à un moment
c'est
donné,
un sujet pour savoir quelle ligne politique.
Il faut essayer de se projeter dans l'avenir et penser où est-ce qu'on sera les plus opérationnels. On va rester sur le banc de touche pendant 5 ans, comme on est resté sur le banc de touche pendant 5 ans, sans rien faire, sans essayer de faire avancer notre pays. C'est quoi l'idée?
Dans ces cas-là, Franck Louvrier, vous voyez rejoindre par exemple Édouard Philippe?
Non, pas particulièrement.
Parce que c'est ce qu'il propose.
Non, moi, je ne sais pas qui a proposé de rejoindre Édouard Philippe. D'abord, Édouard Philippe et Emmanuel Macron, je n'ai pas l'impression que ce soit les meilleurs amis du monde.
Non, mais sur l'aspect de coalition, de rassemblement...
L'idée, surtout, c'est vraiment d'essayer d'avancer sur des majorités de projets. Par exemple, sur la réforme des retraites, vous croyez qu'Emmanuel Macron ne va pas avoir besoin des élus de droite? Vous croyez qu'on ne va pas avoir besoin de faire une coalition sur ce sujet? Vous croyez que sur l'immigration, quand il va falloir prendre des décisions difficiles, on ne va pas avoir besoin d'élus de droite et parfois même peut-être d'extrême-gauche? J'en sais rien. Donc c'est ça les majorités. Regardez ce qui se passe en Allemagne depuis plusieurs décennies. C'est vrai qu'ils mettent du temps à désigner leur chancelier.
Ils négocient avant de composer le gouvernement.
Mais ils négocient avant, sur le fond.
Mais c'est pas la tradition française.
C'est peut-être pas la tradition française,
La coalition en France.
D'autres institutions.
Pascal, la tradition française, c'est pas d'avoir 70% des électeurs qui sont dans la radicalité ou dans l'extrémisme. Mmh. Je suis désolé, quand vous avez près de 27 millions de personnes qui votent les extrêmes ou restent chez eux, c'est qu'il y a un petit problème.
Thomas Desprez, vous avez eu certains cadres LR, j'imagine, ce matin. Qu'est-ce qu'ils disent après ce message de Nicolas Sarkozy ?
Il y en a certains qui sont surpris par son message. Il y en a un qui m'a dit « la clarté, c'est important ». C'est ce que dit Nicolas Sarkozy. Mmh. « La clarté, c'est important ». Dans ce cas-là, la clarté, c'est de soutenir sa famille politique. Voilà ce que me dit un député LR. Et puis, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus durs. Un élu qui me disait ce matin « quelle trahison ». Il faut tout reconstruire. Il y en a même un qui m'a dit quel tocard, pour tout vous dire. Voilà, un élu des Républicains. Et dans les proches de Valérie Pécresse, certains se disent même ce matin, peut-être que s'il nous avait soutenus, elle aurait pu faire plus de 5%. Et un autre encore dit, maintenant les Français ont le choix entre la peste et le choléra. Nicolas Sarkozy, c'est le fossoyeur de la droite. Voilà ce que disent des élus les Républicains. Certains, comme vous, monsieur Louvrier, soutiennent cette position de Nicolas Sarkozy. Et ils sont nombreux, mais je pense qu'effectivement, ça se partage en deux. Et l'avenir sera difficile pour les Républicains, le lendemain du second tour. Ah,
d'abord, quand il y a une opération chirurgicale, ça fait toujours mal. Mmh. Et qu'il va falloir faire l'opération chirurgicale.
Parce que
quand vous êtes en dessous des 5%, à un moment donné, il faut savoir tirer les leçons aussi des résultats des Français. Parce que ce sont les Français qui se sont prononcés. Et puis, au-delà de ça, aujourd'hui, on est dans le deuxième tour. Donc, il n'y a pas besoin de penser, je dirais, à savoir quelle famille politique est présente. Il n'y en a plus que deux. Mais en tout cas, il n'y a plus que deux candidats. Donc, c'est maintenant qu'il faut essayer de décider et d'être dans la clarté.
Vous, par exemple, vous voterez pour Emmanuel Macron.
Mais moi, je voterai pour Emmanuel Macron.
Vous trouvez qu'Emmanuel Macron, il aurait sa place, par exemple, aux Républicains ?
Non, je pense pas, parce qu'il l'avait pas d'abord choisi. Et puis à partir du moment.
Non, mais est-ce que son programme, c'est.
Mais vous savez,
est-ce que son programme est proche de celui, selon vous, des Républicains ? Est-ce qu'il y a eu un glissement de Emmanuel Macron
vers
à droite
depuis 2017 ?
Mais bien sûr.
Mais là, c'est là où Emmanuel Macron a été, je dirais, assez fin pour comprendre la situation politique du pays. La droite a glissé entre. La France a glissé entre la droite et l'extrême droite. C'est ça la réalité politique. Donc des idées. Mais les partis, à côté de ça, ce ne sont juste que, en fin de compte, un fonctionnement organisationnel. Et aujourd'hui, le fonctionnement organisationnel doit être revu. On ne peut pas fonctionner de la même façon qu'on fonctionnait à 15 ou 20 ans. Vous avez deux partis majeurs, qui étaient celui de la gauche, le Parti Socialiste, celui de la droite, à l'époque, l'UMP, le RPR, et aujourd'hui, les Républicains. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Et on le voit bien, c'est vraiment aujourd'hui une autre approche de la recomposition politique qu'il faut faire.
Dans deux mois, il y aura les élections législatives. Oui. Est-ce que vous souhaitez siéger la majorité dans le même groupe que
Emmanuel Macron ? Moi, je suis très à l'aise, en plus, sur ce sujet, pour la simple bonne raison, c'est que je ne suis pas candidat aux législatives, je suis maire de la Bourse, heureux de l'être, et je continuerai à l'être. Mais la seule chose, je pense qu'aujourd'hui, les clés sont entre les mains d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, et Emmanuel Macron doit penser déjà à la réorganisation politique en ne faisant pas la même chose que ce qu'il a fait il y a 5 ans. C'est-à-dire en faisant l'ancien monde, en faisant un parti politique qui, en fin de compte, qui n'a même pas remercié le soir du premier tour des élections présidentielles.
Vous avez eu Valérie Pécresse au téléphone ?
J'ai échangé avec
elle. Parce qu'elle est en plus bouloise, elle a une maison
sûr,
à la boule.
Et j'apporte tout mon soutien à la situation qu'elle est, parce que c'est très difficile, c'est une épreuve. Et en plus, c'est
mais
la double
trouvez...
peine avec l'histoire du remboursement.
Oui, mais alors il y a beaucoup de gens qui sont choqués par cette affaire de 5 millions d'euros d'aller faire les poches des Français, après, parfois...
C'est pas faire les poches des Français,
c'est qu'elle retrouve... C'est une manière, certains le disent, en tout cas, de dire voilà...
acculé à une situation financière auquel il faut apporter une réponse, c'est sûr.
Mais
c'est
le parti
compliqué.
Peut pas payer, le parti
non,
n'a pas,
pas complètement,
les moyens.
Non, parce que le parti n'était pas non plus dans une situation euphorique, et donc de ce fait-là, il faut aussi participer...
Ça vous
participer.
Choque pas, par exemple, le Pécreston ne vous choque pas.
Bah, je comprends qu'elle fasse appel à l'ensemble des adhérents pour essayer de l'aider, en espérant qu'elle puisse obtenir ce qu'elle souhaite.
Moi, j'ai été surpris qu'elle y soit de son argent personnel, je
Bien
pensais.
Sûr, mais
c'est la première fois que j'entends
parce
ça.
Parce que
je
vous
n'êtes
pas présenté aux élections.
C'est le cas de beaucoup de candidats. Hein.
Mais quand vous vous présentez aux élections, que ce soit
hauteur
régional
de 5 millions d'euros.
Ou présidentiel, vous, bien sûr, vous endettez. C'est-à-dire que vous demandez à la banque de se porter caution. Et comme vous savez, les banques, elles se portent caution par rapport à votre fortune personnelle. Ou
personne
à votre...
Dernière chose, il y a eu un peu de langue de bois dans la première question que vous posez, Amandine, tout à l'heure, parce qu'il y a toujours aussi des relations personnelles. Nicolas Sarkozy, manifestement, n'a pas adhéré à la campagne de Valérie Pécresse.
Mais
et
ça,
il ne
c'est...
l'a pas soutenu aussi pour cela.
C'est son
il
n'a
pas apprécié.
Non, mais
il n'était pas que retiré de la vie politique.
Mais
il aurait pu la soutenir s'il le souhaitait.
Mais respectons son choix. C'est pas nous qui sommes maîtres de son calendrier. C'est lui qui l'a décidé. À partir du moment où il a décidé de ne pas se prononcer...
Mais il y a eu de la friture sur la ligne. C'est ce que je veux dire entre les deux. Ça peut exister.
C'est leur rapport. Malheureusement, maintenant, c'est une histoire ancienne et passée, il faut penser à l'histoire future.
Bon, en tout cas, vous êtes
en vacances à la boule ensemble.
J'inviterai les deux en même temps. Si vous
non, mais je crois que Nicolas Sarkozy ne veut plus venir à la boule. Il venait jadis à la boule.
Il est venu la dernière fois pour mon mariage. Donc, oui, c'était il n'y a pas très longtemps.
Ah, non, mais ça, c'est un événement tout à fait exceptionnel.
Il aime beaucoup la boule.
Mais
vous savez qu'il a maintenant une résidence qui l'amène plus vers le sud, grâce à son épouse. Ah, bah,
voilà. Mais bon, il fait évidemment, il a moins de chance. Il y a moins de soleil dans le sud de la France qu'à la boule.
Pas sûr, pas sûr. Détrompez-vous. Ce week-end, c'est plus de 23 degrés.
Bon, merci en tout cas. Merci Franck Louvrier, bon retour à la boule. Il est 13h30, on est un peu en retard, mais c'était pour la bonne cause. À tout de suite. RTL Midi.